Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, balle tragique à droite. Laurent Wauquiez limoge sa numéro 2 Virginie Calmels, coupable d'avoir trop critiqué la ligne du Parti Les Républicains. Analyse de Yaël Gauze dans un instant. Vous avez 4 heures, voilà la petite phrase qui lance à l'instant le bac 2018 avec l'épreuve de philo. On ira voir bien sûr comment ça se passe. Un coup de pouce aux entreprises, un autre aux salariés. La loi Pacte arrive aujourd'hui sur la table du Conseil des ministres, censée faciliter la vie des PME. Elle doit aussi gonfler la participation et l'intéressement des salariés. À 8h20, votre invité Nicolas, il est belge, écologiste, député européen et généralement, il n'a pas sa langue dans la poche.
Philippe Lamberts, auquel on demandera ce qu'il en est maintenant après l'arrivée de l'Aquarius hier en Espagne, ce qu'il en est maintenant de la politique d'asile et la politique d'immigration européenne. Intervenez 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, le gouvernement qui s'attaque aux coffee shops qui vendent des produits dérivés du cannabis. Jérôme Kerviel qui demande la révision de son procès, la Colombie qui met la barre à droite toute, le nouveau président envisage de réécrire l'accord de paix avec les FARC, et puis malheur aux favoris au mondial de foot, le Brésil tenu en échec, l'Allemagne battue, en attendant l'entrée en lice des Belges et des Anglais aujourd'hui. Pacsé en décembre et divorcé en juin, leur couple n'aura pas passé l'été. Le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, a donc tranché hier soir en limogeant sa numéro 2 Virginie Calmels. Elle qui, depuis 15 jours, multipliait les critiques sur la ligne du parti jugée trop à droite. La voilà virée et ce n'est pas la porte-parole des Républicains, Laurence Saillez, qui va s'en plaindre. Fallait pas nous chercher, dit-elle.
Cette violence n'est rien par rapport à celle que nous subissons depuis plusieurs jours, voire quelques semaines, et toutes ces invectives dans la presse contre son propre camp, contre sa propre famille politique. Et lorsque l'on est membre d'une équipe, on ne peut pas tirer toujours des buts contre son camp. Donc je pense qu'il fallait éclaircir cette situation. Ce n'est pas une question de ligne, une question de méthode. Vous ne pouvez pas sans cesse attaquer votre famille politique par voie de presse.
Laurence Saillez, interrogé par Pierrick Bonneau. Bonjour Yaël Gauze.
Bonjour Marc.
Si on remonte le fil des déclarations, c'est à se demander si Virginie Calmels n'a pas tout fait pour se faire virer.
Avec du recul, c'est même étonnant que ce divorce n'ait pas été prononcé plus tôt. On a beau chercher, à part la petite carte postale de l'été dernier, l'ascension en tandem du mont Mézinc, le couple n'a jamais fonctionné. C'est l'histoire d'un grand malentendu. Dès le début, Laurent Wauquiez l'utilise comme caution juppéiste pour faire taire ceux qui le disent trop sectaire. Virginie Calmels, elle s'est crue plus forte qu'elle ne l'était. Et quand elle comprend qu'elle n'aura pas la tête de liste pour les européennes, elle passe en mode roue libre jusqu'à refuser de distribuer le tract voulu par le patron pour que la France reste la France. Inutilement anxiogène, c'est ce qu'elle dit sur Inter le 6 juin dernier. Dans les instances, ses oreilles sifflent. La semaine dernière, réunion de crise avec les autres vice-présidents. Elle semble rentrer dans le rang jusqu'à cette ultime interview suicide aux Parisiens pour laquelle elle n'a prévenu personne, pas même ses collaborateurs.
Alors Laurent Wauquiez a donc tranché. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu plus seul ce matin au siège des Républicains.
Dans son entourage, on va vous dire que c'est une décision collégiale, prise par un chef qui sait cheffer. Vu de l'intérieur, c'est logique, cohérent vis-à-vis des militants. À droite, on ne crache pas sur le chef. Nicolas Sarkozy aurait fait la même chose. Mais vu de l'extérieur, c'est un Laurent Wauquiez en souffrance, de moins en moins légitime dans les sondages, à la tête d'une équipe encore plus masculine. Et chez les LR, il existe une autre Virginie Calmels, mais beaucoup plus forte politiquement. C'est la présidente de région Valérie Pécresse. Elle présente ce matin ses propres propositions pour l'Europe au nez et à la barbe du chef. Chez Wauquiez, on ironise sur la faute de Calmels, l'ancienne productrice d'Endemol. La politique, ce n'est pas Koh-Lanta, mais Wauquiez n'a pas encore gagné son épreuve d'immunité.
Merci Yaël Gauze. Deux réactions à droite. Alain Juppé salue les convictions et le courage de son ex-protégé Virginie Calmels. À gauche, Richard Ferrand ironise sur le profil du nouveau numéro 2, le centriste Jean Leonetti, bien connu, je cite, pour ses travaux sur la fin de vie. Nul doute qu'il pourra éclairer la direction du parti sur son avenir, écrit le patron des députés En Marche.
À l'heure qu'il est 8h05, ils sont en train de découvrir leur sujet de philo.
Oubliez les fiches et les révisions, cette fois c'est le grand jour pour tous les candidats au bac. Depuis 5 minutes précisément, l'épreuve de philo a débuté. Bonjour Sonia Bourhan.
Bonjour.
On l'a su avec vous, cette épreuve dans un lycée du 18e arrondissement de Paris, le lycée Rabelais, 180 candidats. Ils sont tous là, Sonia, ou pas?
Alors certains candidats viennent encore d'arriver il y a quelques minutes en courant. Ils se sont dépêchés de monter les escaliers pour rejoindre leur salle. Les élèves dans l'ensemble n'ont pas eu de soucis dans les transports. Ceux qui viennent de loin ont préféré venir en voiture et ont anticipé. Les autres habitent Paris. Quant aux professeurs chargés de surveiller les salles, ils sont tous là. Les élèves étaient un peu inquiets pour cette épreuve de philo. Amanda et Ariane ne sont pas très inspirées.
Bah c'est la philo quoi, donc c'est... Enfin, on n'a pas trop travaillé en cours, avec le prof, mais là, en gros, on va y aller au talent. Je me dis que si je prends l'explication de texte, ça va être simple, parce que je peux juste reprendre ce qu'il y a dans le document pour essayer de l'argumenter le plus possible en ayant une bonne structure.
On va bien voir, parce que je suis pas trop une lumière en philo, donc on verra bien.
Ils ont relu leur fiche de révision jusqu'à la dernière minute. Vincent est en terminale S.
Un peu stressé, hein, c'est quand même le bac philo, alors qu'on est en S. En une année, c'est difficile d'apprendre plein de thèmes de philo, donc stressé, mais bon. On va voir comment ça se passait. Bon, on a travaillé en cours, mais c'est tout. Ouais, c'est sûr que le prof qu'on avait... Même en cours, c'était... Ouais, on connaît toute la vie du prof, mais on connaît pas beaucoup la philosophie. Hein.
Nous verrons donc en fin de matinée ce sont bien les sujets qu'espéraient les candidats. C'est parti pour 4 heures. Les sujets viennent d'être distribués et les candidats sont en train de les découvrir et de commencer à travailler.
Voilà, il y a un prof qui doit être content ce matin s'il écoute France Inter. Merci beaucoup Sonia Bouran avec Jean-André Gianecchini à la technique après la philo pour les filières générales et techno. C'est le français qui débute tout à l'heure à 9h30 pour les bacs pro. Cet après-midi, on n'oublie pas les élèves de première qui eux passeront l'écrit du français, soit au total 1 300 000 candidats qui pourront donc arriver avec une heure en retard au maximum en raison de la grève à la SNCF. En revanche, les épreuves, Nicolas, ne sont pas rallongées. C'est toujours 4 heures pour la philo et toujours 3h30 pour le français.
175 pages, 71 articles. C'est une loi XXL qui arrive ce matin au Conseil des ministres.
La loi Pacte, portée par le patron de Bercy, Bruno Le Maire, elle est censée doper la croissance des PME et gonfler un peu le portefeuille de certains salariés également avec une mesure phare, l'allègement de la fiscalité sur l'intéressement et la participation qui ne seront plus taxés désormais dans les entreprises de moins de 50 salariés. Laurent Kramer.
La mesure coûtera, selon Bercy, 440 millions d'euros chaque année. Objectif, inciter les patrons de PME à redistribuer les profits de l'entreprise sous la forme de participation ou d'une prime d'intéressement indexée sur les résultats de l'entreprise. La loi Pacte prévoit donc d'abolir les 20% de prélèvements sociaux qui existent aujourd'hui sur ces primes, explique François Asselin, président de la CPME.
C'est tout simplement 20% de taxes qui sont supprimées. Donc ça augmentera, bien sûr, le versement aux salariés, donc leur pouvoir d'achat. Et puis, bien, c'est un levier de motivation collective pour l'entrepreneur très intéressant. Donc c'est un moyen d'inciter l'ensemble des salariés à participer à l'aventure de l'entreprise en allant et en ramant tous dans le même sens.
Emmanuel Macron souhaite avec cette mesure développer le partage des richesses dans les PME françaises. Philippe est un cadre de la région parisienne. Il a fait ses calculs pour sa prochaine prime d'intéressement.
Moi j'ai calculé sur une prime d'intéressement voilà, de 1500 euros. Ça me fait 300 euros en plus. Bah, ces 300 euros c'est quand même pas négligeable. On a l'impression de participer à la réussite de l'entreprise. Donc soit on n'a pas de projet immédiat, donc ça peut s'épargner. Et puis si on a un besoin pour différentes raisons, parce qu'on achète un appartement, parce qu'on veut faire des travaux, parce qu'on a un troisième enfant, c'est de l'argent en plus.
Une PME sur 6 seulement distribue aujourd'hui des primes d'intéressement. Avec cet allègement de la fiscalité, le gouvernement espère doubler le nombre de PME concernées d'ici la fin du quinquennat.
Parmi les autres mesures, une simplification des seuils sociaux, toujours dans les petites entreprises, l'assouplissement de l'épargne retraite ou encore le coup d'envoi des privatisations de la Française des Jeux, d'Engie et des aéroports de Paris. Toutes les mesures à découvrir sur franceinter.fr. C'est un conflit social qui durait depuis 7 semaines à Paris. Les agents des catacombes voient enfin le bout du tunnel. Fin de la grève, ils ont obtenu des hausses de salaire et des embauches. Leur mouvement avait conduit à la fermeture des catacombes visitées chaque année par 500 000 de touristes. Ils poussent comme des champignons en ce moment en France, mais le gouvernement n'en veut plus. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, l'a annoncé hier. Elle souhaite l'interdiction de tous les coffee shops, ces boutiques qui, profitant d'un flou dans la loi française, proposent depuis quelques semaines ou quelques mois des dérivés du cannabis. Explication Margot Steve.
Actuellement, les textes interdisent toute vente de cannabis à usage récréatif, mais autorisent l'utilisation du chanvre, à condition qu'il contienne moins de 0,2% de THC, la substance active du cannabis. Les gérants de coffee shops estiment donc qu'ils respectent la loi en restant sous le seuil de ces fameux 0,2%, ce que conteste la ministre. Un flou législatif que regrette Joachim Louski, le gérant du premier coffee shop parisien.
Nous, on n'est pas des bandits, on n'est pas des trafiquants, loin de là. Hein. On est juste des commerçants et on s'adaptera aux lois, quoi qu'il en soit. Nous, on a voulu clarifier la situation pour qu'on ait un cadre légal. Si c'est illégal, vraiment, on fermera boutique le lendemain, il n'y a aucun souci.
Alors, ces boutiques doivent-elles fermer ? Pour Bertrand Lebeau, médecin addictologue, ce débat relève moins d'un problème de santé publique que d'un enjeu symbolique.
C'est évident que ces boutiques qui en plus s'appellent plus ou moins coffee shop, font de manière assez directe de la publicité au cannabis. Est-ce que cette publicité va augmenter la consommation de cannabis en France? Je n'en sais rien du tout.
Mais d'autres spécialistes sont moins optimistes. Pour eux, ces coffee shops contribuent à encourager la consommation de cannabis, ou en tout cas à la banaliser.
Inter 8h11, Jérôme Kerviel obtiendra-t-il la révision de son procès?
La procédure est rarissime et pourtant, c'est ce que va tenter aujourd'hui l'ancien trader de la Société Générale, 10 ans après le début de l'affaire. Il demande à être rejugé, lui qui avait été condamné à 3 ans de prison ferme pour abus de confiance. Il faudra pour cela montrer qu'il dispose de nouveaux éléments en sa faveur. Sarah Guibaudot.
Après 10 ans de bataille judiciaire, Jérôme Kerviel a vu ses dommages et intérêts réduits à 1 million d'euros au lieu des 4,9 milliards perdus. Il a même gagné au prud'homme, ce sera jugé en appel en octobre. Mais au pénal, l'ancien trader a toujours été reconnu coupable. Et sa théorie, la banque savait, n'a jamais convaincu. Totalement fantaisiste, avait tranché la cour d'appel de Paris. Comment Jérôme Kerviel peut-il soutenir que les services de contrôle étaient informés de la réalité de ses prises de position et de ses résultats extravagants, alors qu'il leur a toujours menti et produit de faux emails, s'interrogeait en 2009 le juge d'instruction Renaud Van Ruymbeek. À l'époque, la commandante Nathalie Leroy de la brigade financière partage cette analyse. Mais en 2015, elle change radicalement d'avis et explique que l'enquête a été manipulée. Ce sentiment de la policière n'est pas très étayé et une nouvelle enquête a démenti ces accusations l'année dernière. 5 magistrats issus de la Cour de cassation devront donc dire si cet élément nouveau justifie d'ouvrir une procédure de révision.
À l'étranger, la Colombie met la barre à droite toute.
C'est le candidat de la droite dure, Iván Duque, qui remporte la présidentielle 54% des voix face à son concurrent de gauche. Le nouveau président a promis de réécrire les accords de paix signés avec la guérilla des FARC à Bogota. Pour France Inter, Marie-Ève de Teuf.
La Colombie, fidèle à elle-même, a voté à droite. Mais le score historique réalisé par le candidat de gauche, Gustavo Petro, change la donne politique. Iván Duque, dimanche soir, a appelé au rassemblement.
Aujourd'hui, je veux remercier Dieu et le peuple colombien parce qu'une nouvelle génération arrive au pouvoir pour gouverner avec tous et pour tous.
Le nouveau président a dit qu'il n'avait pas d'ennemis et affirmé qu'il ne mettrait pas à la poubelle l'accord de paix signé avec la guérilla des FARC. Il entend toutefois le modifier. Dans le camp Petro, les sentiments étaient partagés. Iván Duque est perçu comme la marionnette de l'ancien président Álvaro Uribe, très militariste. Laura, étudiante.
J'ai peur par-dessus tout pour l'avancée du processus de paix. Mais la gauche et les secteurs alternatifs ont désormais leur chance dans le pays. Les corrompus qui ont toujours gouverné ce pays ne vont pas avoir la tâche facile. Il y a de l'espoir.
Sur les plateaux de télévision, les analystes en étaient d'accord. Le jeune et inexpérimenté Iván Duque va affronter une opposition revigorée. À Bogota, Marie-Ève de Teuf pour France Inter.
Pas question de baisser les armes en Afghanistan. Les talibans refusent de prolonger le cessez-le-feu en vigueur depuis 3 jours. Le président afghan leur avait tendu la main. Mais la réponse des islamistes a été claire. Un communiqué, tout d'abord, puis un attentat suicide. Il a fait 18 morts dans la ville de Jalalabad.
Au mondial de foot, les favoris sont à la peine.
Les tenants du titre au tapis dès le premier match. L'Allemagne a raté son entrée hier, battue 1-0 par le Mexique. Pendant que le Brésil, lui, était tenu en échec 1-1 par la Suisse. La nouvelle coupe de Neymar façon choucroute brésilienne n'a pas suffi. À suivre aujourd'hui, Suède-Corée du Sud, c'est à 14h, Tunisie-Angleterre à 20h, et entre les deux, la Belgique face au Panama. Bonjour Franck Ballanger.
Bonjour Marc.
C'est votre histoire de foot du jour, celle du capitaine du Panama, il s'appelle Roman Torres. C'est lui qui a permis à son pays de se qualifier pour la première fois à un mondial. Il est défenseur et son physique le rangerait plutôt au rayon des rugbymen, Franck.
Roman Torres a 32 ans et sa vie jusqu'au 11 octobre 2017 était celle d'un vagabond du football, comme il en existe beaucoup au Panama. Parti très jeune en Colombie pour mieux gagner sa vie, Torres, défenseur central, souvent qualifié de rugueux, a quand même fini par atterrir au Millonarios de Bogota, l'un des grands clubs du pays, et de bonnes performances lui offrent en 2015 un contrat dans le championnat américain à Seattle. L'année suivante, il permet à son équipe de remporter le titre, le premier de son histoire en inscrivant le tir au but victorieux en finale contre Toronto. Roman Torres est désormais une légende à Seattle. Il va devenir un héros au Panama. Panama. Le 11 octobre dernier, donc, le Panama est opposé au Costa Rica dans le dernier match de qualification pour le Mondial. Les Canaleros doivent compter sur une défaite des États-Unis et battre, dans le même temps, les Costariciens pour décrocher leur billet pour la Russie. Contre toute attente, les États-Unis sont battus, mais le Panama est tenu en échec par le Costa Rica. Un but partout à la 89e minute de jeu, un but partout jusqu'à ce que Roman Torres parte à l'abordage. Le Rasta panaméen envoie une incroyable patate sous la barre. C'est fait, qualification historique pour le Panama. Après ce match, le statut de Roman Torres change. Il le dit lui-même, depuis le 11 octobre, j'ai l'impression d'être une star de cinéma, tout le monde veut faire une photo avec moi, tout le monde m'aime. Et logiquement, les contrats publicitaires affluent, le nouveau héros se retrouve sur des paquets de café, fait de la pub pour des banques ou des compagnies d'assurance. Au pays, certains ont même dit qu'il s'était un peu embourgeoisé, qu'il avait grossi, au sens propre. En conférence de presse, un journaliste panaméen, la semaine dernière, lui a même demandé s'il ne faisait pas un peu plus que les 99 kilos annoncés pour 1m88 et s'il n'était pas finalement le joueur le plus gros de cette Coupe du Monde. Roman Torres s'est alors levé, il a remonté son t-shirt pour faire découvrir un grand sourire aux lèvres, des abdominaux dignes de ceux de Ronaldo ou presque.
Merci Franck Ballanger. Belgique, Panama, 17h, les Bleus, faut-il le rappeler, disputent leur deuxième match jeudi prochain, Nicolas, face au Pérou. Enfin, fini les plaines de l'Ouest pour l'Handsome Cowboy. C'est à Paris que Lucky Luke posera son colt et ses éperons dans son prochain album, nous apprend ce matin le journal Le Parisien. Aujourd'hui en France, le cowboy y croisera la route du sculpteur Auguste Bartholdi, le créateur de la Statue de la Liberté. C'est la première fois qu'il quittera le continent américain.
Merci Marc Fauvel.